Alors voilà, nous sommes le lundi 22, je pense, et nous abordons le sujet de la gloire chez le croyant sur la terre. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. N'est-ce pas glorieux d'entendre une telle parole? Un pardon dont Dieu ne se lasse pas, c'est quelque chose de glorieux. Comprenez bien que la gloire de Dieu se manifeste déjà dans sa grande miséricorde à notre égard. Qui peut pardonner tout le temps sans se lasser, chers amis? Qui peut être bon et fidèle à ce point-là? Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Donc, la pensée de Dieu, c'est le pardon, c'est la grâce. Sans cette grâce, sans ce pardon de Dieu, nous sommes foutus. Nous n'avons pas d'avenir, nous n'avons pas de solution. Donc, c'est une gloire, c'est une grâce glorieuse, c'est une gloire de Dieu sur nous que ce pardon. Et franchement, cette miséricorde est glorieuse en Christ et en Dieu le Père et dans le Saint-Esprit. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je pense réellement que nous devons découvrir un Dieu infini dont les pensées, les attributs sont immenses et nous dépassent. Ne nous habituons pas à un Dieu à notre portée, ne nous habituons pas à un Dieu qui rentre dans nos cases, dans nos habitudes, nos idées. Nous sommes devant un Dieu infiniment grand et tout-puissant, dont les pensées sont au-dessus de nos voix, dont ses pensées sont au-dessus de nos pensées, au-delà de nos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole, c'est Christ. La parole, c'est la rédemption de Christ. C'est la parole de Jésus-Christ crucifié et ressuscité pour notre salut. Cette parole ne restera jamais sans effet sur cette terre. Elle est à l'œuvre, elle est puissante, elle est glorieuse. Oui, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. Vous voyez la promesse? C'est un décret. Ce n'est pas un souhait de Dieu, c'est un décret. Cela s'exécutera. Ça fait force de loi sur toutes les choses ignobles qui existent pour le moment. Les mauvaises choses, c'est son décret qui s'exécutera. Le mal disparaîtra. Oui, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Donc les nations, les peuples, les tribus, de toute langue, de toute race, de toute couleur. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Évidemment, c'est aussi une image pour tous les justes, tous ceux qui sont sauvés par grâce. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Vous savez, l'épine et la ronce représentent le péché qui nous envahissent, qui nous inonde, qui nous submerge, et qui, c'est par les convoitises, hein, parce que Jésus, dans Matthieu chapitre 23, l'explique, ce sont les convoitises qui étouffent la parole de Dieu en nous. Eh bien, ces convoitises, ces épines et ces ronces disparaîtront à jamais. Chers amis, il ne faut pas craindre. Le décret de Dieu est en cours et s'exécutera pleinement. Donc, Ésaïe 55, c'est au verset 6 à 13, c'est une promesse d'une miséricorde glorieuse sur les humains. Et à cause de cela, nous sommes invités à avoir soif. Chapitre 55 d'Ésaïe, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Je dirais, l'argent, c'est le symbole de la sagesse dans la Bible. C'est un symbole de l'obéissance à Dieu, la sagesse. Et l'argent représente cela. L'or, ça représente l'adoration. Et donc, si moi je n'ai aucune sagesse, aucune obéissance à Dieu, je peux quand même venir à Dieu. Je peux venir à Dieu. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Le salut est totalement par grâce. Nous n'avons aucune capacité de nous sauver par nous-mêmes. Mais tout est possible en Christ, en Dieu. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, vous mangez ce qui est bon, le pain se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Alors, lisez tout ce chapitre 55 qui nous annonce l'inondation, le tsunami de la grâce sur la terre. Pour celui qui croit en Christ, qui croit en Dieu, qui aime la parole de Dieu, l'espérance est folle par rapport aux autres qui doutent de tout, qui ont peur de tout. L'espérance est folle, elle apparaît comme une folie, mais l'espérance est certaine. Elle est certaine. Nous allons prendre la première épître de Pierre au chapitre 4, verset 14. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 14. Je vais vous dire que la connexion était très difficile. J'ai dû demander à une de mes filles de voir, de vérifier, de rétablir. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez commencé à 6h20, 25. Je pense que je vais passer du temps dans la prière pour que ça n'arrive plus. Et prier aussi, parce que il y a de plus en plus de personnes qui écoutent et pratiquement, il faut vraiment prier. On pourrait avoir des pots de banane comme ça régulièrement pour que le message ne passe plus. Prions que Dieu prenne autorité sur ce système électronique et sur tout le reste. Qui met ses anges autour de nous. Pour ce moment très important, durant les messages, trois fois par semaine, et même avec le Pakistan, vers 5h15, hein, c'est très important aussi. Et le dimanche. Premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 14. « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Donc, je vous ai parlé que le sujet, là, maintenant, que j'aborde, c'est la gloire de Christ sur nous. La gloire de Christ est sur le chrétien. Le chrétien a toujours l'impression que s'il est béni, tout doit aller tout seul. Et même, je vais vous dire que c'est faux. En général, les chrétiens qui ont une vie profonde en Christ, et une profonde communion en Christ, ce sont ceux qui ont eu des épreuves très lourdes, très grandes, et qui en ont encore. C'est dans ce chemin-là, souvent, qu'on saisit beaucoup mieux la grâce et la dépendance envers Dieu. Je ne veux pas vous souhaiter des épreuves, par plaisir, par innocence. Je voudrais simplement vous dire que le bonheur n'est pas là où toujours on le pense, dans la facilité et la tranquillité. Et donc, regardez bien, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alors, juste avant, je vais lire les versets qui précèdent, versets 12 et 13. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. Ils arrivent de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » La fournaise qui est au milieu de vous. Pensez à Daniel et ses amis qui ont été dans la fournaise. Et à cette époque-là, pensez aux épreuves que l'Empire romain faisait subir aux chrétiens, et dans beaucoup de pays actuellement. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. De la part que vous avez aux souffrances de Christ, je me rappellerai toujours de ce... Très tardivement, je regardais un reportage sur les méfaits de l'État islamique et de Daesh en Syrie. Et je voyais une jeune femme chrétienne, elle était de profil, pour qu'elle ne soit pas persécutée, on la voyait de profil. Une jeune femme d'origine chrétienne, syrienne, qui, avant les bagarres qui ont encore lieu en Syrie, avant les bagarres, allait à l'université avec des amies musulmanes de son âge. Donc à 18, 20, 22 ans, elles étaient des étudiantes très appliquées et très intelligentes. Et est arrivé tout ce carnage, tous ces méfaits de part et d'autre en Syrie, entre les ethnies. Et notre Europe, nos pays riches ont envoyé beaucoup d'armes. Hein, et non, ils ne sont pas innocents dans tout ça. Ils poussaient à la chute de Bachar el-Assad et n'y sont pas arrivés. Et pratiquement, si vous voulez, ces femmes ont été en prison, ont subi des tortures, des viols en série et en groupe, et certaines sont mortes de leur souffrance dans les prisons, d'autres en sont réchappées, et je vous l'ai déjà dit, celles qui étaient musulmanes, qui rentraient dans leur famille, étaient honteuses, elles portaient la souillure. Vous savez, il y avait une des filles, une petite fille de David qui avait eu la honte parce que son frère l'avait violée. Comment porterai-je ma honte, disait-elle. Eh bien, c'est une tradition. Quand une femme a été violée ou qu'elle n'est pas vierge, elle porte la honte. Elle est rejetable, elle est rejetée. Et donc, ces femmes avaient une deuxième sanction, c'était le rejet de toute leur famille, de tout le monde. Mais la jeune femme chrétienne n'était pas rejetée, elle était aimée et bien accueillie. Et elle a dit ceci, je me rappelle très bien, « J'ai souffert de manière horrible et je souffrais dans mon cœur encore pour mes amies musulmanes qui étaient en prison, que j'entendais, sur lesquelles on faisait tellement de sévices, dont certaines sont mortes dans les souffrances, dans les cris. Et j'ai appris à connaître la souffrance de Christ. » Et j'ai compris à quel point mon maître, mon Seigneur Jésus a souffert pour moi. Quelle profondeur d'âme chez cette femme, chez cette jeune femme. Et nous en avons accueilli des pareils, non pas de Syrie, mais d'autre part dans notre maison. Nous en avons accueilli des personnes comme ça. Hommes et femmes, tabassés, violés, tout ça. Et oui. Et ils nous avons été à l'école de la foi auprès d'eux. Alléluia. À l'école de la foi auprès d'eux. Nous remercions le Seigneur de nous avoir donné l'amour pour eux, mais de leur avoir donné tellement de grâce qu'ils les ont partagés avec nous et que nous ne sommes pas restés les mêmes. Nous ne pouvons pas rester chrétiens en surface. hésitant. Vagabond au niveau spirituel, un coup par-ci, un coup par-là pour Dieu, un coup par-là pour nous-mêmes, etc. C'était impossible avec tout ce qu'on avait entendu. Le chemin était clairement tracé par toutes ces personnes devant nous, et jour et nuit pendant des années, on les a accueillis pendant 39 ans. Et donc c'est une école de la foi. Donc ici, ce que Pierre enseigne, c'est « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. » Donc, le chrétien hérite de la gloire de Christ, la gloire du ressuscité. Prenons la première épître de Jean, chapitre 5, verset 4. Que pouvons-nous craindre si nous héritons de la gloire immense du ciel, de Dieu ? Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc c'est déjà glorieux d'avoir un tel triomphe. Car qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Le mot croire, c'est adhérer. Hein, c'est pas croire avec le cortex cérébral. Hein, c'est adhérer. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Donc l'eau, sa parole, et du sang, la croix. Qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit, la vérité. L'Esprit Saint rend témoignage dans le chrétien de ce qu'est Christ à travers sa parole et son sacrifice. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit Saint, l'eau, donc la parole, et le sang, la croix. La croix et sa résurrection, bien sûr. Les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Donc, vous voyez, la gloire du chrétien, c'est d'avoir en lui un témoignage de Dieu qui rend honneur au Fils de Dieu. Comprenez que la dimension spirituelle dans notre vie est glorieuse. Et elle est à saisir, entretenir, à aimer. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur. Nous pouvons faire Dieu menteur tout en allant au culte, tout en lisant notre Bible. Parce que nous n'entretenons pas le témoignage spirituel de Christ en nous. Le témoignage vivant, la vraie vie spirituelle. Lorsque nous sommes dans la chair. Verset 11, 1er Épître de Jean, chapitre 5, verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Ce n'est pas la vie éternelle avec des strapontins au ciel, ce n'est pas là-haut l'aboutissement, c'est la vie éternelle maintenant. Et cette vie est dans son Fils, en Jésus, dans ma vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Méditez ce verset, chers amis, ils sont d'une très très grande importance pour un renouveau spirituel chez nous tous, chrétiens d'Occident. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, nous pourrions aller plus loin. Nous pourrions aller plus loin dans le chapitre. Je vous invite à lire tout le chapitre. Mais moi, je vais aller au chapitre 2, verset 20. Chapitre 2, verset 20. Marie-Hélène, j'avais moyen d'arrêter. Pour vous, 1er Épître de Jean, chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Saisissez, chers amis, ces mots-là, c'est vital. Il faut prendre le temps de méditer, le temps d'être seul dans la nature, d'être seul dans son auto, de ressentir l'onction de Christ en nous et de la laisser parler, de laisser se développer en nous la connaissance de Christ par la force et la puissance du Saint-Esprit. Il faut laisser des immensités de notre cœur disponibles à Dieu pour que cette onction agisse, nous enseigne. Si nous sommes toujours accaparés, avec des écouteurs sur la tête, avec des smartphones, des télévisions, des ordinateurs, et le boulot, etc., et la mangeaille, pauvre de nous. Nous allons au verset 27, 1er Épître de Jean, chapitre 2, verset 27. Mylène. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, demeure en vous. Meneo, elle campe, elle vit avec vous, elle marche avec vous. Elle demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais quand son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. La vraie vie intérieure, la voilà, les amis. La vraie vie glorieuse, qui ne se paye pas de mots, qui se fait dans l'humilité. Il se fait dans l'humilité, dans un bon terreau, un bon terrain. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que je connais, je ne veux pas vous dire ça de vous, mais je connais des personnes, ils cherchent toujours des enseignements partout. Partout, partout. Des bouquins, etc., etc. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous avez tout reçu à la conversion dans le Saint-Esprit. Vous avez tout reçu pour connaître Christ. Vous avez tout reçu pour être enseigné. Parce que Christ est vivant, l'onction est vivante. Vous avez tout reçu. Nous négligeons trop le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, Jésus dit ça à la Samaritaine. Dans l'évangile de Jean, si Jésus revenait dans nos églises, je pense qu'il dirait la même chose. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point, c'est-à-dire n'a pas l'amour du péché, n'entretient pas l'attirance vers le péché, n'entretient pas le souvenir du péché, n'entretient pas le plaisir d'y penser. Non, il est pécheur, mais c'est son ennemi le péché, c'est différent. Donc, quiconque demeure en lui ne pêche point, donc il ne pratique pas et n'adhère pas au péché. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Donc, l'ennemi de l'onction, c'est l'amour du péché. C'est l'amour de la chair. L'amour du monde. C'est ça. 1er épître de Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, mais c'est pas les autres, c'est le monde en moi. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, ni les choses qui sont en moi. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, mais c'est le monde qui est en moi. Je veux qu'on comprenne bien, c'est pas extérieur, c'est toutes nos racines culturelles, toutes les influences reçues, tout ce qu'on traficote, qu'on entretient. Alors, tout ce qui est humain, si vous voulez, en nous, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, donc il s'explique ici, c'est pas des parallélismes, c'est une explication, c'est un texte ornemental, explicatif, la convoitise de la chair, l'attrait de l'humain, si vous voulez, la convoitise des yeux. Ah, ça joue beaucoup les yeux dans l'état spirituel de notre âme. L'orgueil de la vie, et oui, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Toujours le verbe meneo, vive, campe, la volonté de Dieu campe, vit en moi éternellement. C'est extrêmement profond, c'est très... On ne peut pas comprendre ça avec la raison, mais je vous en prie, prenez du temps dans le silence, dans la méditation, à genoux, couché à terre, dans le lit, dans la voiture, méditez les mystères de Christ. La richesse incompréhensible de Christ est glorieuse. Prenons Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens Éphésiens, chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, c'est clair, il est enchaîné, il est en prison. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. La dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, pour la partager. Chers amis, si vous avez la dispensation, l'abondance de la grâce et de la connaissance de la grâce en vous, il est inévitable, vous allez la distribuer aux autres. Ce sera plus fort que vous. Vous serez des fontaines d'eau vive pour les autres. C'est ça que Dieu veut dans notre vie. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Le mystère, c'est-à-dire la réalité de la personne de Christ. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, donc de la personne de Christ, selon les Écritures. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit, aux saints apôtres et prophètes de Christ. L'Esprit Saint est à l'œuvre puissamment dans le collège apostolique. Il veut toujours être à l'œuvre, même si les 12 apôtres ont eu la superdose, comme Obélix qui est tombé dans la potion magique en naissant, si vous voulez. Mais nous avons en plénitude le Saint-Esprit, laissons-le agir, vivons-en. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'étais fait ministre, donc serviteur, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Donc ce n'est pas par lui-même. À moi qui suis le moindre de tous les saints, ben oui, c'était un tueur de chrétiens, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses incompréhensibles par la raison humaine, par l'imagination humaine, par la culture humaine. Encore aujourd'hui, les amis. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Donc, la dispensation de Christ, de la personne de Jésus, qui a créé toutes choses et qui a puissance sur toutes les autorités, dominations, etc., dans les lieux célestes, comme ici même, il veut avoir cette puissance et cette autorité dans l'Église. Lisez le reste de ce chapitre. C'est formidable. Éphésiens chapitre 2. La gloire est très profonde. La gloire est très réelle dans la grâce que nous avons reçue en Christ. Pourquoi négligeons-nous? Pourquoi avons-nous un sens si superficiel de la gloire et de la grâce? Il faut beaucoup de temps dans l'adoration et la prière, les amis. Moi, je suis toujours en déficit de prière et d'adoration. Toujours. Et ça me fait mal. Tant pour vous que pour d'autres qui m'appellent, qui me demandent, parce qu'ils sont malades, etc., ils ont des épreuves, que pour ma progression, pour l'Église. Nous sommes toujours en déficit. Je ne me culpabilise pas. Mais je dis, Seigneur, mon Dieu, fais-moi boire à ta fontaine, que je boive plus de ton eau vive, de ta parole, par ton Saint-Esprit. Nourris mon âme, Seigneur. Je ne veux pas vivre par moi-même. Je ne veux pas vivre selon mes pensées, selon ce que j'imagine, ce que j'ai envie de faire ou pas faire. Seigneur, conduis-moi, sois mon maître, mon Seigneur, pas seulement mon sauveur. Et voilà, c'est tout ça qui est très important pour nous. Et je ne fais pas du narcissisme en vous parlant comme ça. C'est pour vous inviter à marcher dans cette voie. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Verset 13. En lui vous aussi, donc Jésus-Christ, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, donc une certitude, une garantie formelle, divine, de notre héritage pour la rédemption que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Nous sommes acquis par le sang de Jésus et nous sommes acquis par le scellement du Saint-Esprit, à quoi ? À la louange de sa gloire. Notre fonction est de louer la gloire de Christ, la gloire du Père, par la vérité et la puissance du Saint-Esprit. Regardez bien ces versets, Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14. Nous sommes acquis à Dieu pour être des sacrificateurs, des adorateurs, être un parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Pourquoi les anges prendraient-ils les prières des saints si elles puent, hein? Apocalypse chapitre 5. C'est parce qu'elles sont à la louange de Christ. Ce pas des prières égocentriques, narcissiques. Ce sont des prières d'adoration pour la gloire de la grâce de Christ, qui sont dans des vases d'or pur et offerts par les 24 vieillards et les anges à Dieu et à l'agneau. Quelle noble condition nous avons réellement. C'est pas du mythe. S'il vous plaît, vivez, non pas comme des moines qui se retiraient dans les grottes et tout ça, mais il y a quand même quelque chose de bon dans toutes sortes d'écrits de pères orthodoxes, etc., des contemplatifs, même chez les catholiques, des choses bonnes. Et aussi chez Bonhoeffer, par exemple, un Allemand. Il y a des choses très bonnes dans des théologiens, mais il faut savoir choisir. La chose la meilleure, plutôt que tout cela, c'est l'œuvre de la gloire de Christ en chacun de nous. Et pour cela, il faut s'y consacrer, s'y adonner. Il faut s'abandonner à l'œuvre de la grâce en nous. Prenons la deuxième aux Corinthiens. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 1. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 1. Verset 19. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui était prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? L'engagement entier de Christ envers son Père, amen, amen, est le témoignage même de ce que nous devons être aussi comme Christ en face de Dieu. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, et pensez celles qui ont été faites à Abraham, Isaac et Jacob, que toutes les nations le connaîtraient, seraient bénies dans la grâce. Eh bien, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Donc en Christ est le oui. Si je me mets en Christ dans la prière et l'adoration, tout mon cœur s'ouvre au oui. Oui, Seigneur, oui, je t'aime. Oui, je me donne à toi. Oui. Je vis pour toi. Oui, je veux rester avec toi. Oui, tu me plais. Oui, je suis amoureux de toi. Oui, tu me corriges. Oui, tu m'enseignes. Oui, Seigneur, tu me reprends. Oui, parfois tu me châties. Oui, parfois tu me fais la honte. Oui, tu m'aimes. Toujours. Pour toujours. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc nous, l'Église, nous chrétiens, en groupe, en communauté, et à travers le monde, nous prononçons un oui, à la gloire de Dieu. Nous glorifions Dieu pour son sacrifice, le sacrifice de Christ à la croix et son amour révélé en Christ. Hein? Pourquoi? Parce que c'est Christ qui a prononcé l'amen. Reprenez ce verset, C'est pourquoi encore l'amène par lui, donc par Christ l'amène, quand il va au Golgotha et qu'il s'offre. Père, glorifie-moi, je t'ai toujours glorifié. Alors, ce amen de Christ est prononcé par nous, parce que nous nous mettons dans la même mouvance, la même réalité spirituelle, nous nous donnons à notre Père comme Christ, à la gloire de Dieu. Comprenez-vous pourquoi nous avons une gloire dans notre vie ? Il faut la saisir. Il faut la vivre. Donc nous sommes dans le deuxième aux Corinthiens et nous allons maintenant au chapitre 12, verset 7. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, c'est notre misère à tous, hein. C'est ça, on retombe là-dedans régulièrement. Parfois inconsciemment, ça, c'est encore pire. Hein. La présomption, l'image d'être juste. Il y a une fausse assurance du salut, hein, qui n'est que de la présomption. Il y a une vraie assurance du salut, mais celle-là, elle est remplie d'humilité profonde et vivante en Christ. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces choses, donc de toutes les révélations que Dieu a faites à Paul, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Le voilà bien que Paul dit, mais ça me fait du bien que Satan me fasse du mal. Est-ce que c'est pas ça que Joseph a dit, finalement, à la fin du livre de la Genèse ? Le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien. C'est pas ça dans l'épître de Pierre, que nous sommes à travers la fournaise, mais que nous sommes dans l'esprit de gloire. Tout ce sujet est très profond. Et Satan peut nous, parfois, nous infliger de lourdes attaques, avec la permission de Dieu seulement, afin qu'on ne soit pas dans l'orgueil. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, il m'a dit, ma grâce te suffit. Gnade is genug. Ma grâce est suffisante. Et c'est ma grâce, c'est celle de notre Père des cieux. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, me glorifier. Je suis dans la gloire, j'accepte cette gloire de la faiblesse de Christ. J'accepte cette gloire de la pauvreté en Christ. C'est bizarre ce chemin. C'est bizarre ce chemin chrétien. Eh bien, dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. De quoi ? De sa gloire. De son salut, mais de sa gloire aussi. Combien ces choses sont l'air mystérieuses, n'est-ce pas ? Et pourtant, elles sont très profondes et très vraies. Et le vrai christianisme passe par là. Nous sommes loin de l'évangile, de la prospérité, de la puissance, etc., n'est-ce pas ? Nous sommes plutôt dans l'évangile de l'impuissance glorieuse. Regardez dans Apocalypse, chapitre 3, la petite église de Philadelphie. Elle est sans puissance. Elle est couverte de la gloire, de la puissance de Dieu, en fait. Mais une puissance pas comme celle du monde. La puissance de la foi, la puissance du Saint-Esprit, la fidélité et la gloire d'avoir une porte ouverte continuellement devant Dieu et de faire des conversions chez les plus durs parmi les juifs. Alors 2 Corinthiens chapitre 13 verset 8, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous avons de la puissance, c'est-à-dire une force intérieure, une force spirituelle, une vie glorieuse dans la vérité, dans la relation vraie, la relation spirituelle à Christ, authentique. Nous n'avons de puissance que de cette manière-là. n'est pas une puissance selon le monde, évidemment. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts, et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est beau. C'est beau et c'est vrai. Prenons la 1 Corinthiens, chapitre 13. Il y avait, évidemment, toujours la même chose, la même tentation. 1 Corinthiens, chapitre 13. Moi, j'étais en Afrique plusieurs fois et pratiquement tout pasteur qui veut avoir du monde cherche à avoir une sono, cherche à avoir des micros, cherche à avoir des baffes puissantes et un raccordement électrique. S'il n'en a pas, il faut un groupe électrogène. Pourquoi ? Ben, c'est l'équivalent d'aujourd'hui, ben, même dans certaines églises. Hein, on a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Hein. Quand je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, donc l'amour de Christ, l'agapé, je n'ai pas Christ en moi, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc je suis une baffle, je suis un micro, je suis une batterie, je suis une guitare électrique qui résonne bien, qui fait du charme aux yeux, aux oreilles, mais il me manque Christ, l'agapé. Et je me complais dans les plaisirs de l'oreille et dans les goûts musicaux que j'ai et dans les vérités que j'installe en moi. S'il y a de la musique et si on chante tous ensemble, oui, certainement Jésus est là. Certainement Jésus est là. Et si la persécution vient, si l'église se vide, est-ce que Jésus est encore là? Chers amis, c'est peut-être seulement là, à ce moment-là, qu'il est là. Je suis dur, mais je ne peux pas mentir. Quand j'aurai le don de prophétie, donc, et il y en a beaucoup des prophètes aujourd'hui, hein, peut-être que moi je me prends pour un prophète aussi, si je vous parle, hein, mais gare à moi. Gare à moi, je vais rendre des comptes très, très serrés. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance biblique, évidemment, théologique, quand j'aurai même toute la foi, je serai transporté des montagnes, ben oui, je prends l'avion, je vais partout, je prêche partout, et hop, je suis un champion. Ou nous sommes des champions. Ben non. Jésus, tout ça, il peut le mettre au bac, à la poubelle. Matthieu 7, 21. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui compte, ce qui m'intéresse en toi, c'est quoi? L'agapé. Est-ce que mon amour, la puissance du Saint-Esprit, agit en toi? Est-ce que c'est cet amour-là, Romains 5,5, cet amour que je veux te donner, que tu acceptes et qui est uni à mon Père des cieux? Est-ce que c'est cette soudure éternelle, vivante, permanente, avec mon Père des cieux que tu souhaites? Ou tu aimes bien d'être un champion glorieux sur la terre, en mon nom? C'est pour ça que dans Matthieu 7, 21, « Arrière de moi, vous avez prophétisé en mon nom, vous avez guéri des malades en mon nom, vous avez cherché des démons en mon nom. Je ne vous ai pas connu, je n'ai pas vécu avec vous. » Donc, tout ce chapitre 13... Méditez-le jusqu'au verset 8. Chaque fois que vous avez le mot charité, ça vient de caritas en latin, c'est une traduction de agapé, via le latin, la vulgate, mais c'est aussi le mot agapé, c'est l'onction, c'est le don divin en nous d'aimer Dieu et Christ, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est cette onction permanente, cette action divine en nous, qui est le sceau vivant de Dieu. Rien d'autre. C'est cela qui compte. Et si je ne l'ai pas, c'est une noix dans laquelle il y a une coquille, mais il n'y a rien dedans. Pour Dieu, le cœur. pour nous, peut-être que j'ai l'air un peu dur dans tout ça, mais la gloire de Dieu n'est pas à n'importe quel prix. La grâce de Dieu à bas prix n'existe pas. Et la vie chrétienne à bas prix n'existe pas en Christ. Il faut se donner entièrement à Christ et vivre de lui. C'est dur tout ça, chers amis, c'est dur, je le concède, c'est dur pour moi aussi. Prenons la première aux Corinthiens, chapitre 2, verset 7. Chapitre 2, oui, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, en parlant de Jésus-Christ, hein. Parce que la sagesse, c'est l'obéissance parfaite à Dieu, n'est-ce pas? C'est pas une sagesse comme nous, on le conçoit. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, donc une réalité divine puissante, puissante, hein, très puissante. Authentiquement puissante, c'est celle de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Alors, vous voyez, c'est pour cela que je termine ce point-là aujourd'hui. Nous participons à la gloire de Christ. Nous, notre vocation, c'est la gloire. Ce n'est pas la déchéance. Le diable veut la déchéance. Les systèmes politiques, économiques veulent la déchéance. Tout veut un esclavage et une déchéance. Si vous êtes enfant de Dieu, vous cherchez la gloire de Dieu, pas la gloire du monde. Alors je reprends ce verset. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sachant qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, et s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Deux fois le mot gloire. Nous sommes destinés en Christ, nous avons une vocation de gloire. Et ensuite, le siège, la source, le trésor de gloire, c'est Christ en nous. C'est le Seigneur de gloire, le Seigneur de gloire. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Nous, Dieu, nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit Saint sent tout, même les profondeurs de Dieu. J'en termine là aujourd'hui. Abandonnez-vous à une véritable vie spirituelle. Les temps sont courts. Nos églises ont besoin de véritables vies spirituelles. Marchons à genoux. Humilions-nous devant la face du Seigneur. Laissons-le diriger nos vies. Laissons-le parler dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos âmes. Allons au-delà de nos vérités installées dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos critères culturels, familiales, ecclésiastiques, parce qu'il y en a même chez les évangéliques aussi des critères ecclésiastiques. Allons au-delà de tout ça. Dans les mots grecs pour la conversion, chaque fois qu'on lit un texte en français, c'est conversion, repentance. Eh bien, il y a métanoïa, c'est changement de vie. Je vais dans un sens, je rencontre Christ, je change totalement de vie, je vais dans l'autre sens. Bon, mais il y a des autres mots. Je passe à côté de l'obstacle qui s'est mis dans ma vie, que j'ai peut-être mis moi-même, ou que ma femme m'a mis, mon mari, ou la télévision m'a mis, ou que mes convoitises m'ont mis. Je passe à côté. Epistropheo. Je passe à côté. Ou je saute au-dessus, comme le cheval qui saute au-dessus de l'obstacle, apostropheo. Et puis le mot stropheo aussi. Il y a plusieurs mots que chaque fois on retrouve en français, conversion, repentance, mais écoutons bien, il y a plein d'attitudes spirituelles intérieures à nous où il faut déjouer les ruses de la chair. Et donc, les ruses de la chair sont les plus ignobles et les plus basses. C'est pas Satan, C'est pas les autres. Le problème est en nous. Notre nature pécheresse. Nous ne voulons pas lui obéir. Nous ne voulons pas lui donner la moindre consécration. Nous voulons laisser toute la place au Seigneur de gloire, le Seigneur glorieux. Et c'est pour ça que dans Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous y voilà. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son fils Jésus-Christ, afin que son fils fût le premier-né parmi tous ses frères, nous. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, donc pardonnés, innocentés, par grâce, à cause de son sang. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Glorifiés, les amis. Glorifiés. C'est tout de même phénoménal. Nous sommes déjà héritiers de la gloire. Nous sommes déjà glorifiés. Avons-nous saisi le terrain de la gloire, réellement? Avons-nous saisi le terrain de l'ineffable, de l'insondable, de l'incompréhensible? Avons-nous saisi ce que l'Esprit Saint veut nous dire, veut nous offrir tous les jours, veut parler à notre conscience, veut éclairer notre intelligence? C'est très important, chers amis. Glorifier. Tite, chapitre 2, versets 11 à 15. Tite, chapitre 2. La parole de Dieu est passionnante. Passionnante. Elle nous enseigne des trésors. Tite, chapitre 2, versets 11 à 15. Voici. Tite, chapitre 2, versets 11 à 15. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Je vous ai dit que ce n'est pas le monde alentour, c'est le monde en moi. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Où puis-je trouver cette sagesse, cette justice et piété? Mais en Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, rédemption, etc. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Alors, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, nous attendons de manière heureuse, avec plein de conviction, l'apparition de notre Seigneur de gloire. Dans la gloire. Pourquoi? Parce que nous lui viendrons semblables. Jean l'a dit dans 1er épître de Jean, chapitre 3. Enfin, lorsque nous le verrons face à face, nous lui viendrons semblables. Fini. Nous avons terminé, pas nous, le travail, mais Dieu a fait en nous tout son travail. Et nous avons terminé de combattre entre la grâce et la chair. De combattre entre la vieille nature et la nouvelle nature. Nous avons fini avec ce chemin où parfois nous sommes assez bien contradictoires. Je ne dis pas schizophrène, je ne dis pas névrotique, n'est-ce pas? En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, encore aujourd'hui, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Purifié par lui. Le Seigneur de gloire nous purifie tous les jours. Et zélé pour les bonnes œuvres, il nous donne le feu pour les bonnes actions, les bons engagements pour lui. Dis ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. C'est pas beau ça? Un mercredi, nous allons aborder le chrétien ressuscité. Qu'est-ce que c'est un chrétien ressuscité? Chers amis, je vous demande pardon d'avoir commencé tard. Il y avait des problèmes de blocage sur mon appareil. Je voudrais bien mercredi être à l'heure, 6 heures. Au plus tard, 6h05, tous en route. Dieu soit loué. Dieu soit béni. Il est grand. Sa grâce est merveilleuse pour chacun de nous. Saisissons-la avec reconnaissance, humilité, adoration et joie, même dans les épreuves. Amen. Amen.